entrer dans ce culte avec un prélude musical. Nous allons écouter. Voilà, bienvenue à chacun et bonne année à vous tous en ce premier dimanche de l'année 2020. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne sais pas comment on est déjà en 2020. Le temps a passé tellement vite. C'est le Seigneur lui-même qui nous accueille aujourd'hui. Il nous accueille chacun, quelle que soit notre situation. Situation personnelle, situation de santé, situation de couple, de famille. Où que nous en soyons sur le chemin de la foi, voilà, le Seigneur nous accueille. Que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, on est tous ensemble là, dans la présence du Seigneur. Alors voilà, au passage d'une année à l'autre, on se souvient de certaines choses de l'année écoulée. Peut-être on se souvient avec reconnaissance de bénédictions du Seigneur. Peut-être aussi avec tristesse de la perte d'un être cher. On pense à ce qu'on avait espéré ou pensé faire et qu'on n'a pas réalisé. Moi, j'en ai toujours pas mal sur cette rubrique-là. Mais en tous les cas, on peut être reconnaissant de la présence du Seigneur qui nous a accompagnés cette année, qui va continuer à nous accompagner. Et puis, on a nos attentes pour l'année qui vient. On peut se réjouir de ce qu'elle nous apportera de neuf. Je pense que Philippe va nous en parler un peu. On voit aussi, quand on a un certain âge, on voit se rétrécir le temps qui est devant nous. On peut avoir des incertitudes, des inquiétudes. Mais voilà, on est là tous ensemble, à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire ce matin. À l'écoute de ce à quoi il nous appelle. Parce que finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé avant ou les incertitudes sur ce qui va se passer qui compte, c'est ce à quoi Dieu nous appelle maintenant, pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, l'année qui est devant nous. Alors merci à, mais en particulier à David et Caris, porteurs, qui espéraient être en famille, mais il y a eu des petits soucis de santé qui sont que d'eux, mais c'est magnifique qu'ils soient parmi nous pour animer ce temps de louange et de prière. Merci à Philippe Anchaud qui nous apportera la prédication tout à l'heure. Et merci à chacun des autres personnes qui contribuent à ce culte. Il y a toujours des contributeurs invisibles, mais devant Dieu, chacun a la même importance. Voilà, je propose de prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ta présence dans nos parcours de vie, à tous les moments de nos parcours. Et nous te prions que tu nous fasses sentir ta présence tout particulièrement ce matin, pendant ce temps de culte, que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions recevoir quelque chose qui nous concerne dans nos vies personnelles, nous permette d'aller de l'avant avec toi dans la vocation que tu nous confies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Merci. Sylvain nous a parlé du calendrier, on sait qu'on est en 2020. Il y a un autre calendrier, c'est le calendrier chrétien, c'est-à-dire on marque certains événements de la vie du Christ pendant l'année, dont un, on vient de vivre, c'est Noël. Traditionnellement, Noël, ça continue jusqu'à au moins demain, parce que demain, c'est l'épiphanie, lorsque traditionnellement, on a célébré la manifestation de qui était Jésus envers le monde. Et donc, central à notre foi, c'est justement la venue du Christ. J'aimerais lire ce que Isaïe a écrit des centaines d'années avant cet événement. Un des événements dans l'épiphanie, c'est l'arrivée des mages. Donc, il y a un petit lien avec les trois rois. « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin, tes fils sont portés comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront dirigées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le flot des chameaux, les dromadaires de Madian, d'Épha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or, de l'encens, et ils proclameront les louanges de l'Éternel. » Je vous propose de continuer avec quelques chants de la période de Noël, dont un, on vient de parler donc des mages qui sont venus d'autres pays pour voir qui était cet enfant Jésus. Nous allons chanter un chant qui est uniquement en anglais, « Go tell it on the mountain ». Alors ça ne vaut pas vous trop perturber, d'accord, parce que moi, ça fait des années que je chante dans une langue étrangère, je suis encore en vie, donc ne vous inquiétez pas. Il y a aussi d'autres personnes pour qui, en ce moment, ils ne comprennent rien de ce que je suis en train de dire, parce qu'ils ne parlent pas le français, mais ils viennent souvent chez nous. Je viens d'en apercevoir d'un, donc au moins une personne aussi sera contente. « Go tell it on the mountain », c'est assez connu, pour dire « Allez annoncer partout que Jésus-Christ est né ». Je vous invite de vous lever, de chanter avec nous.
Yeah. visite des mages. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné des instructions, ces mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Ô Dieu de lumière et de paix, dont la gloire qui brille dans l'enfant de Bethléem attire encore aujourd'hui les nations vers toi, dissipe l'obscurité qui entoure notre chemin, afin que nous puissions venir nous agenouiller devant le Christ dans une véritable adoration, pour lui offrir notre cœur et notre âme, et retourner de ce moment dans sa présence pour vivre comme il a enseigné.
C'est pourquoi moi, Paul, je suis prisonnier au service de Jésus-Christ pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Dieu, par une révélation, m'a fait connaître le mystère de son projet. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le projet de salut qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant, par son esprit, à ses apôtres et prophètes. Et voici ce projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et ils bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. À moi, le moindre de tous les croyants, Dieu a accordé cette grâce d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse infinie du Christ. Il m'a accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet de salut caché. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Ainsi maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Unis au Christ et par la foi, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance.
Lorsqu'on s'est réalisé qui était Jésus, nos yeux ont été ouverts. La manifestation, la déclaration de qui était cet enfant vers le monde, c'est comme si Dieu est en train d'ouvrir nos yeux pour voir qui il est et ce qu'il a fait pour nous. On va chanter un chant peut-être nouveau, « Reflet de toi ». Je l'ai joué tout à l'heure au début du culte. Je vous invite de chanter avec nous, c'est assez facile. Ça parle aussi de reflet de toi. Je sais qu'un jour, nous pourrons te voir tel que tu es. Pour l'instant, peut-être, on ne comprend pas tout à fait toujours les plans ni la voix de Dieu. Mais il se manifeste. Il se manifeste encore aujourd'hui à nous. Il veut marcher avec nous. Et nous voulons le célébrer pour cela et pour sa fidélité.
Voilà, maintenant, avant que les enfants ne rejoignent leur moniteur pour continuer ce culte dans les salles du bas, j'aimerais prier pour vous. Merci Seigneur pour nos enfants qui sont parmi nous. Merci pour les moniteurs qui se donnent la peine pour être avec eux et partager quelque chose du message de l'Évangile avec tous ces enfants. Nous te prions pour eux, pour les enfants comme pour les moniteurs, que tu les bénisses durant la suite de ce temps de culte. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre l'étage du bas. Voilà, et c'est Philippe Anchaud qui va maintenant nous apporter le message.
Bonjour à chacun, à chacune. Je vous adresse mes vœux fraternels pour une belle nouvelle année 2020. On va la vivre, la traverser ensemble. Que le Seigneur soit notre force et notre joie. J'aimerais saluer Anne et Jean-François Negrini. Il faut que j'enlève mes lunettes. Vous voulez juste vous lever quelques instants? Vous nous revenez cette fois définitivement. Le Seigneur peut réserver des surprises, hein, mais voilà, soyez les bienvenus, les amis, et que le Seigneur vous accompagne dans cette étape importante pour vous. Que sa paix soit sur vous. Peut-on espérer quelque chose de neuf cette nouvelle année? Ou est-ce que nous sommes condamnés, vous et moi, à vivre des rythmes qui se répètent sans cesse? Peut-on espérer quelque chose de neuf quand on a 40 ans? Peut-on espérer quelque chose de neuf quand on a 80 ans? Peut-on espérer quelque chose de neuf quand on a passé 25, 30 ans dans le même métier, avec la même femme? Dans la même église. Peut-on espérer quelque chose de neuf quand on s'est trompé, quand on a préjugé de ses forces, quand apparemment on a échoué? Moïse a été élevé comme un prince en Égypte. Puis sa vie a basculé. Moïse a dû s'enfuir. Et cela fait 40 ans qu'il s'occupe d'un troupeau de moutons et de chèvres. 40 ans qu'il est réfugié en Madian, étranger, apatride, sans avenir. Il rêvait d'utiliser son éducation pour améliorer le sort de son peuple, et ce rêve est parti dans les sables. Tous les jours se ressemblent. Tous les jours se ressemblent. Rythmés par le bêlement des troupeaux, par la recherche de pâturage, par la nécessité de faire boire les bêtes, même dans le désert. Une fois par an, c'est la période des naissances, un agnelage difficile à surveiller. Il y a toujours un agneau ou un chevreau orphelin à nourrir. Une fois par an, c'est la tonte des moutons, des gestes à répéter mille fois. Une vie d'éleveur nomade qui, sans aucun doute, peut être la source d'une grande satisfaction, mais une vie qui ne changera jamais. Jamais. Sauf qu'il y a Dieu. Et je vous invite à écouter la lecture d'Exode 3, les versets 1 à 15.
Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici, » répondit-il. « Ne t'approche pas d'ici, » dit le Seigneur. « Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire de ce pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites, les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ? » Je serai avec toi, dit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je ? Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai, m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer.
Sylvain. Une vie qui ne change jamais, sauf qu'il y a Dieu. D'abord, ce buisson qui prend feu. Dans certains pays très secs, on trouve ces plantes qui peuvent prendre feu spontanément. Mais ce qui est étonnant pour Moïse, Ce n'est pas que le buisson prenne feu, c'est que le buisson ne se consume pas. Il y a bien des flammes, mais le buisson reste intact. Ce qui, pour le moins, vaut un détour. Verset 3. Puis, il y a la voix qui émane du buisson. Et cette voix, c'est la voix de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont entendu audiblement, comme Moïse ce jour-là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont cru l'entendre. Mais l'entendre, vraiment, c'est autre chose. Et puis il y a le message que Dieu lui adresse, les versets 4 et suivants. Ce message, c'est que Dieu vient délivrer les Israélites de leur condition d'esclaves. Il va les conduire dans un pays nouveau, dans un pays d'abondance. Dieu est un Dieu libérateur. Mais pour libérer son peuple, Dieu envoie Moïse en Égypte et l'appelle à réaliser tout ça. Parce que Dieu fait toujours avec des hommes et des femmes. Bon, moi, à la place de Moïse, à ce stade, je me serais demandé si je n'avais pas la berlue. Des voix, des hallucinations, ça arrive, hein, dans certains états mentaux altérés, ça arrive. Mais ici, il ne s'agit pas de quelque chose que Moïse rumine de façon obsessionnelle. Il ne s'agit pas d'un personnage fragile, à qui on hésiterait à confier quoi que ce soit. Moïse, c'est un homme stable, c'est un homme mûr. Il est destiné à de grandes responsabilités en Égypte. C'est un homme qui a la tête sur les épaules, qui sera l'un des plus grands chefs d'État de l'histoire. La suite le démontrera. Mais Moïse est quand même surpris par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Tenez, il ne sera même pas d'accord avec ce qu'il entend. Et ce n'est pas une hallucination, il est surpris par Dieu. Il n'y a pas beaucoup de place dans nos vies pour que nous soyons surpris par Dieu. Nous avons un cadre de vie bien stable, bien rempli. Les choses sont bien réglées. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et puis on ne va pas se mentir, la Bible on la connaît bien. Le dimanche, on sait déjà ce qu'on va entendre. C'est rare que nous soyons cueillis. Et puis entre nous et le Seigneur, c'est peut-être une longue histoire. Comme dans certains couples de longue date, les vraies surprises sont rares. Et avec Dieu, c'est peut-être pareil. Il n'y a pas de mal à ça, hein. La complicité de certains vieux couples, c'est délicieux. Mais avoir ce genre de complicité avec Dieu, avec le Créateur, tout savoir de lui à l'avance, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, le connaître par cœur, c'est pas possible. Parce que Dieu est Dieu et moi je suis sur la terre. Au détour d'un buisson du désert, au détour de l'ordinaire d'une vie bien réglée, au détour de mes habitudes, de mes chemins tout tracés, de mes régularités, au détour de tout ça, Dieu peut me surprendre. Ça vous est peut-être déjà arrivé, hein ? Une lecture biblique qui vous a arraché des larmes. Un culte, une prédication qui vous a stoppé net. Moi, je vais vous dire honnêtement, la dernière fois, c'était le 15 décembre, ici, avec Denise, Lorraine, Séverine, le texte de Jean-Yves, le témoignage de Lorraine, la prédication de Denise. J'ai été stoppé net. C'était la dernière fois. Ou c'est un événement qui vous a remis en question, une proposition qui vous a relevé, une rencontre qui vous a remis en route, des paroles, un geste, un conseil qui ont été décisifs. Dieu peut me surprendre dans des rendez-vous simples, sans décorum, au détour de l'ordinaire de ma vie. La question, c'est est-ce que je vais me laisser surprendre? Ou est-ce que je suis trop centré sur moi? Est-ce que je suis englué dans mes habitudes? Ou est-ce que je suis encore capable d'être surpris par Dieu? Comment Dieu se révèle à Moïse? Eh bien, versets 4 et 5, d'abord, il appelle Moïse à s'approcher, mais pas de trop près, comme auprès d'un grand feu. Alors Moïse enlève ses sandales, il prend conscience qu'il est sur une terre sainte, une terre qui est trop proche de Dieu, une terre qui appartient à Dieu comme tout appartient à Dieu. Il se cache même le visage, c'est pas le moment de bomber le torse pour Moïse. Depuis qu'on a quitté le Moyen-Âge, on n'a plus l'habitude de mettre un genou à terre. Depuis 50 ans, plus personne n'a de chapeau à ôter. Comment faudrait-il exprimer le sentiment de la grandeur et de la sainteté de Dieu? En baissant la tête, en se mettant en garde à vous, en levant les mains, en se jetant par terre. Au XXIe siècle, nous n'avons plus de gestes pour le dire. Mais intérieurement au moins, cultivons le respect dans notre relation avec Dieu. Il est saint. Et puis il y a un deuxième volet à cette révélation de Dieu. Verset 6, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Cela devait être profondément rassurant pour Moïse, lui l'Égyptien qui n'en était pas un, lui le réfugié qui n'est pas chez lui au pays de Madian. Eh bien Dieu le rattache à ses racines, à son histoire, il le rejoint. Il rappelle à Moïse qu'il a un passé et que Dieu déjà fait partie de ce passé. Ce n'est pas un passé qui vous enferme dans un carcan. Ce n'est pas un passé qui vous colle une étiquette sur le dos. C'est un passé qui vous donne un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identité, un sentiment de continuité. Et parfois, quand on cherche à mesurer la fidélité de Dieu, il est utile de repasser en mémoire ce que Dieu a été pour nous jusque-là. Ce qu'il a été pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a mis en route pour nous. Et ce souvenir, cela n'empêche pas la nouveauté, parce que Moïse sera appelé à une grande nouveauté. Mais cela nous permet de discerner comment la main de Dieu nous a conduits jusqu'à présent et nous aider à voir ensuite quel est le pas suivant et à faire confiance. Et puis avec Moïse, il y a encore un peu plus. Abraham, Isaac, Jacob. Sans aucun doute possible, Moïse connaissait leur histoire, probablement grâce à ses parents. Il l'a peut-être même écrite, leur histoire, dans son exil forcé en Madian, sans savoir qu'un jour nous appellerions ce livre la Genèse. Moïse connaissait Abraham, Isaac, Jacob. Il connaissait leur fragilité, leurs inconséquences, et il connaissait la fidélité de Dieu envers eux et les promesses que Dieu leur avait faites. Le Dieu qui se révèle à lui dans ce buisson qui brûle n'est pas différent du Dieu de ses pères. C'est le même Dieu. Un Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui est juste. Et je vous propose que cela peut nous aider. Le Dieu qui se révèle à nous aujourd'hui encore, c'est le Dieu de nos ancêtres. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de l'histoire. Le bien qu'il leur a fait, il veut le faire pour nous. Les avertissements qu'il leur a donnés, il nous les adresse aussi. Il sera fidèle envers nous comme il a été fidèle envers nos pères. Pour le chrétien, la chrétienne, une nouvelle année, un nouveau départ, un nouveau défi, un changement radical s'inscrit toujours dans la continuité à cause de la fidélité de Dieu. Notre Dieu ne change pas au fil des tours et des détours de notre existence. Il reste le même. L'appel de Moïse. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Rien de moins. Il y a de la continuité dans les plans de Dieu, parce que cette sortie d'Égypte, il l'avait déjà annoncée à Abraham, et puis Moïse, 40 ans plus tôt, avait déjà essayé de protéger son peuple avec le succès que l'on sait. Va donc maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. C'est un appel terrifiant, terrifiant. Je ne pense pas que Moïse était déphasé par rapport à ce qui se passait en Égypte. Sans aucun doute, il a pu avoir des nouvelles grâce à son frère, grâce à sa sœur. Mais là, maintenant, il est au pied du mur. Dieu lui demande d'affronter le King Joum I de l'époque et de prendre la tête d'un peuple tribal qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Dieu lui demande de conduire ce peuple à travers le désert jusqu'à la terre promise. Pour un troupeau de moutons, ça va. Mais pour une nation entière, un appel terrifiant, terrifiant. Et d'ores et déjà, il me semble que nous pouvons dire ceci. C'est que Dieu a le droit de nous appeler à faire des choix difficiles. L'appel à la conversion est comme cela. L'appel à la justice est comme cela. L'appel à prendre une responsabilité est comme cela. Dans l'un de nos cantiques, nous chantons parfois « Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre. » Et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. C'est de ça qu'il s'agit. Comme au temps où Jésus a appelé les disciples, les uns au bord de la mer, d'autres assis derrière leur bureau. Vous savez, l'appel à la consécration, l'appel à se donner à Dieu, sans compter. Voilà un appel exigeant. Et cet appel de Dieu ouvre à Moïse des perspectives de nouveauté. Nous pourrions imaginer que Moïse est enthousiaste. Waouh, Seigneur, c'est génial, c'est formidable. Merci, Seigneur. Enfin, les Israélites vont être libres et c'est moi, Moïse, qui aurai le privilège de les conduire. Certains envisagent peut-être de servir Dieu dans cet état d'esprit, être sur le devant de la scène, combler leur soif de reconnaissance, compenser un échec. Moi, je trouve que Moïse a une réaction beaucoup plus authentique et plus juste en un sens. Il n'a pas envie d'y aller. Il ne veut pas le faire. Et il met en avant 4 problèmes auxquels Dieu va apporter une réponse. Et Moïse refuse fermement, mais poliment. Il n'a pas envie, Moïse, il n'a pas envie, mais alors pas envie, du tout, d'être un grand libérateur. Il n'en veut ni les risques, ni la gloire. Et il avance de bonnes raisons pour ne pas s'engager dans cet appel de Dieu. Verset 11. « Qui suis-je ? » Ça, c'est un sentiment d'infériorité qui s'exprime. C'est comme pour dire « ben, je suis rien, moi ». Et ce sentiment-là, il résume tout le reste. Verset 13. « Que répondrai-je aux Israélites ?» Ça, c'est le manque de connaissances, le manque de préparation. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Je ne sais rien. Chapitre 4, verset 1. « Puis s'ils ne m'écoutent pas ?» Ça, c'est la crainte du risque. C'est le doute sur l'ensemble du projet. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire. On ne va pas y arriver. Chapitre 4, verset 10. Puis je n'ai pas la parole facile. Peut-être c'est un handicap spécifique, je ne sais pas. Peut-être que Moïse y bégayait. Ou alors simplement la difficulté de s'exprimer en public. Ce n'est pas toujours évident de parler devant les autres. Quatre raisons pour dire à Dieu qu'il n'a pas fait le bon choix, qu'il aurait dû penser à quelqu'un d'autre. Et à chacune de ces raisons, Dieu va apporter une réponse. Tu as un sentiment d'infériorité, Moïse ? Mais Moïse, moi je serai avec toi. Tu ne sais pas dire qui je suis, Moïse, mais souviens-toi, je suis le Dieu de tes pères. Puise dans cette histoire, raconte cette histoire, repasse dans ton cœur cette histoire, dis que je suis un Dieu qui libère. Tu crains d'être rejeté ? T'inquiète pas, je vais te donner trois signes miraculeux que tu vas pouvoir accomplir. Tu ne sais pas parler ? Mais Moïse, il n'y a pas de souci, moi je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai moi-même ce qu'il faudra dire. Et Moïse ne voulait sans doute pas que Dieu réponde à ses objections. Alors il avance une dernière raison, au chapitre 4, au verset 13. « Seigneur, envoie qui tu voudras. » Une manière polie de dire « ne m'envoie pas moi, mais envoie quelqu'un d'autre. » Il aurait dû le dire avant, parce que je pense que c'était le fond de sa pensée depuis le début. « Tout le monde, mais pas moi. » Et des fois, je me pose la question si on ne serait pas pareil devant certains appels insistants de Dieu. Avec de bonnes raisons qui cachent la raison fondamentale. J'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. Et Dieu sait faire face à notre mauvaise volonté. Moïse dit « Qui suis-je ?» et il se cache. J'ai un problème avec mon truc, mais ça ne doit pas être grave. Moïse dit « Qui suis-je ? » et il se cache. Et Dieu lui répond « Je suis. » Et il se révèle. Et il se révèle comme étant le roc sur lequel on peut construire sa vie. Il se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui les a accompagnés, secourus, soutenus, relevés dans tous les épisodes parfois chaotiques de leur vie. Il se révèle comme le Dieu des promesses tenues dans l'histoire. Un Dieu proche de nous, qui fait alliance avec nous, qui nous fait grâce. Un Dieu qui ne se laisse jamais surprendre ou dépasser par les événements. Un Dieu qui chemine avec nous. Dieu répond donc à Moïse sur le fond. Dieu répond donc à Moïse sur le fond. La vraie réponse devant nos résistances, c'est quand quelqu'un nous dit « Je serai avec toi ». C'est ça qui va emporter toutes nos résistances, c'est ça qui va nous motiver, c'est ça qui va nous ancrer, c'est ça qui va même vaincre notre mauvaise foi, c'est de savoir que Dieu est là. Face à nos inquiétudes, la réponse de Dieu, ce n'est pas un contre-raisonnement. Il n'est pas en train de nous dire « Attends, je vais t'expliquer la théologie maintenant. On va faire de la systématique devant nos inquiétudes. » Devant nos soucis, devant nos défis, la réponse de Dieu, ce n'est pas un raisonnement, mais c'est une présence. Et c'est généralement ce que veulent nos enfants quand ils viennent nous poser des questions, n'est-ce pas ? Expliquer tout en continuant à regarder notre smartphone, c'est pas assez. Expliquer tout en continuant notre bonhomme de chemin, c'est pas assez. Il faut expliquer en se mettant à côté de l'enfant. Parce que ce qu'il demande, c'est notre présence. Et souvent, nous ne savons pas la donner. Mais heureusement, Dieu est plus fin et généreux que nous. Je serai avec toi. Cela nous rappelle la promesse du Seigneur Jésus. Le Père vous enverra l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Quand vous essayez de poursuivre la route, malgré les luttes, malgré les chutes, malgré les inachevés, malgré les insatisfactions, Dieu dit, je serai là, avec vous, tous les jours, à vos côtés, à tes côtés. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Je cheminerai avec toi. Quand vous vous lancez dans une mission impossible, un service qui demande beaucoup, Dieu promet, je serai là avec vous tous les jours. Dans les défis au travail, je serai là avec toi. Dans les défis dans la famille, je serai là avec toi. Dans nos défis communautaires, je serai là avec vous. Je conclus en reformulant mes questions d'introduction. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de neuf de cette nouvelle année? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de neuf quand on a passé 40 ans dans le même métier, avec la même femme, dans la même église? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de neuf quand on a 40 ans, quand on a 80 ans? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de neuf quand on a X années de vie chrétienne derrière soi? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de neuf quand on s'est trompé, quand on a préjugé de ses forces, quand on s'est viandé, quand on a échoué? Eh bien, je réponds oui. Oui, en répondant à l'appel aux appels de Dieu. Oui, en étant attentif à ce qu'il met sur notre chemin d'ordinaire. Moïse dit « Qui suis-je ?» et se cache. Ce qui pourrait bien être un de mes réflexes naturels quand Dieu me rencontre. Qui tu veux, mais pas moi. Et Dieu dit « Je suis » et il se révèle. Et c'est la marque de son accompagnement concret, de sa présence sensible à nos côtés. Je suis avec toi. Qu'avons-nous besoin de plus pour marcher avec Dieu? Amen.
J'aimerais ouvrir un temps de partage ou témoignage ou prière selon ce que vous avez à cœur. En mémoire de ce que Dieu a fait, de sa fidélité, peut-être dans notre vécu de 2019, des attentes pour 2020, prêt pour des surprises, peut-être une demande de prière pour une situation difficile. Alors très librement et très simplement, peut-être je passerai avec le micro si quelqu'un a quelque chose pour qu'on puisse s'entendre.
Ce matin, je me sens très proche de Moïse et ce qu'il a reçu. Je voudrais juste témoigner de notre dernière histoire dans la poursuite de maladie de Werner. Il y a donc 10 ans qu'il est malade à peu près. Et début 2018, une nouvelle rechute est arrivée. Et lorsque nous avons reçu le diagnostic d'une tumeur cérébrale dans le cerveau, je me suis trouvée complètement démolie, effondrée, terrifiée. Et je disais, non Seigneur, non, alors cette fois-ci, non, moi je ne peux pas. Ça m'était inimaginable d'imaginer pouvoir faire un pas de plus avec de la chimio, avec de la radio, avec les effets secondaires, ces effets continuels, ces successions. Non Seigneur, ce n'est pas possible. Et je crois que Werner était pareil. On se regardait effondré en se disant c'est la chose de trop, impossible. Et dans le lecteur de la Bible, il y avait l'histoire de Jonas, sa fuite et cette baleine qu'il a avalée. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que c'était inutile de fuir avec le risque de se faire avaler par un gros poisson. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était ensemble. Et moi, surtout, qui étais à l'extérieur de l'hôpital, de remettre tout cela à Dieu. Et je peux dire, oui, il est fidèle. Toutes ces bontés qu'il nous a données, la façon dont il nous a entourés l'un et l'autre, c'est grand, c'est fort, c'est magnifique. Oui, nous avons un Dieu fidèle et bon. Et ce matin, en ce début 2020, avec toutes les questions qui sont toujours là, je dis merci. Merci Seigneur.
Merci pour ce témoignage. Seigneur, nous te remettons, Denise et Werner, sur ce chemin difficile de la maladie. Merci parce que tu les as accompagnés. Merci parce qu'ils sont là parmi nous ce matin. Amen.
Bonjour à tous, ça fait à peu près un an que je viens chez vous, dans votre église, un petit peu incognito, excusez-moi mon émotion. Donc il y a à peu près un an, j'ai quitté mon foyer avec mon épouse, avec 40 ans de vie commune, et Philippe parlait de 40 ans aujourd'hui, tout spécialement. Et puis, l'idée, c'est que j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de retrouver des choses en moi. Et ça a duré longtemps, ça a duré pratiquement un an. Et au jour d'aujourd'hui, je veux vous dire que, en cette fin d'année, Dieu a créé un chemin neuf, comme Philippe vient de nous le dire. Et voilà, il a permis qu'on puisse retrouver, on continue nos petites rencontres, mais je veux dire, pour moi, une lumière a jailli au fond d'un immense tunnel. Et voilà, je veux remercier Dieu, vous remercier aussi tous. Vous avez été là. Je n'ai pas été très demandeur, mais je peux vous dire que beaucoup de fois, j'ai pleuré pendant les cultes où Dieu me parlait. J'avais besoin de me vider. Et puis, peut-être sans vous en rendre compte, vous avez été là pour m'aider. En tout cas, votre présence, votre accueil, vos petits sourires et votre discrétion aussi m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci beaucoup.
Merci pour votre témoignage. Vous pouvez nous dire votre nom ?
Jean-Paul Gézère.
Ben moi, j'aimerais dire merci au Seigneur, parce que quand on croit que tout est perdu, ben c'est là qu'il peut commencer quelque chose. Quand on voit qu'il n'y a plus d'espoir, ben c'est là qu'il peut nous relever et puis nous parler et puis faire quelque chose de neuf. Alors oui, je crois que Dieu peut faire quelque chose de neuf. Et il a commencé quelque chose de neuf pour notre couple. Et je dis vraiment merci, gloire. Gloire à Dieu.
Merci, Nicole. Je vous propose qu'on puisse peut-être... moins que quelqu'un ? Ah, il y a encore quelqu'un. Merci.
J'aimerais juste dire que M. Kissinger faisait la politique des petits pas. Et nous voyons dans notre famille, pour notre petit-fils, Dieu agir à petits pas, mais des pas qui avancent. Et j'aimerais remercier tous nos frères et sœurs qui prient pour notre petit-fils particulièrement et dire ma reconnaissance à Dieu.
Merci, Irène. Je propose de prier pour remettre ces situations à Dieu. Je pense qu'il y a souvent beaucoup de souffrances cachées dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. Et c'est bien de pouvoir se porter les uns les autres. Et de continuer à le faire dans cette année. C'est aussi pour ça qu'on est là en Église. Seigneur, merci pour ta fidélité qui se manifeste de différentes manières dans nos parcours de vie. J'aimerais te remettre ceux qui ont partagé quelque chose ce matin, Jean-Paul, Irène, Nicole, Denise et Werner. Et tu connais aussi d'autres situations, tu connais ceux qui ont perdu un être cher durant l'année écoulée. Seigneur, sois avec chacun là où il en est et ouvre nos cœurs pour ce que tu vas faire dans nos vies pendant cette année 2020. Te remettons en pleine confiance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter Quel repos céleste.
Tu conduis mes pas, tu me combles.
Dieu qui se révèle à Moïse, c'est un Dieu qui voit la souffrance de son peuple, qui vient nous rejoindre, qui vient nous délivrer. Le point culminant de cette venue, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie. C'est Jésus-Christ qui partage ce lieu de souffrance, de la mort. Nous en faisons mémoire par le partage du pain et du vin, ce geste que Jésus lui-même nous a laissé. Et le soir même où il allait être arrêté, c'était au moment de la Pâque juive, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Nous allons passer dans les rangs avec le pain et le vin. J'invite deux ou trois personnes à nous rejoindre pour la distribution. Comme d'habitude, il y a du jus de raisin au milieu des plateaux et il y a des coupes de vin pour ceux qui souhaitent communier à la coupe. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et dans sa vie donnée pour nous sont invités à partager le pain et le vin. Seigneur, merci. Merci pour le don de ta vie. Merci parce que tu es venu nous délivrer. Merci parce que nous sommes pardonnés. Aide-nous à en vivre jour après jour. Amen. propose de terminer ce temps de communion par la prière que Jésus nous a laissée, cette magnifique prière qui englobe le ciel et la terre, qui englobe le pain et le pardon, qui englobe nos personnes et la communauté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer un temps d'offrande, qui, je rappelle, est une offrande tout à fait libre. Les offrandes sont le moyen concret par lequel notre Église peut vivre sur le plan matériel. Voilà, et pendant ce temps, nous chanterons le chant « Ton nom ». Seigneur, toi qui es celui qui nous donne le pain de chaque jour, nous te prions que tu bénisses cette offrande qui est là, que tu donnes la sagesse à ceux qui la gèrent, que tu permettes que tout cela soit utilisé pour faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Avant la bénédiction finale, il y a un moment d'annonce. Je crois que c'est Johan qui va les faire.
Bonjour à tous. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et puis, je désire aussi dire que c'était une belle année, en tout cas au niveau du conseil. Et on se réjouit de pouvoir continuer cette nouvelle année. Que le Seigneur bénisse cette Église et vous accorde à tous la paix. Je crois qu'avec les témoignages qu'on a eus ce matin aussi, c'était très enrichissant et ça fait du bien aussi pour toute l'Église. C'est une véritable édification. Pour passer aux annonces, donc il y a le mémo qui est disponible sur le site Internet. Est-ce que la version papier est déjà... Je ne sais pas si Zéné est là. Mais en tout cas, sur le site Internet, c'est disponible dans la partie membres. Pour cette semaine, le conseil jeudi soir. Ensuite, vendredi soir, le caté qui reprend. Il y a aussi une soirée avec Graham Kendrick. Je te laisse prendre la parole.
Alors, normalement, les musiciens, les responsables de louanges, les chanteurs ont reçu un mail pour parler d'une soirée spéciale, Dialogue, avec Graham Kendrick, qui est à Genève et à Lausanne pour le week-end. Donc, c'est aussi avec les responsables de louanges d'autres églises de la région. Voilà, si ça vous intéresse éventuellement et vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous êtes peut-être aussi les bienvenus. Quelqu'un donc qui a plus de 40 ans de ministère, qui a écrit beaucoup des chants que nous chantons, comme tout à l'heure lorsque Philippe Antomé, roi serviteur, c'est un exemple. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas donné cette information. Vendredi soir, ici à 20h.
Et puis ensuite, il y a la pélisserie, deux éléments. La première chose, c'est il y a eu début décembre une exposition sur les origines de la Croix-Rouge. Et le mardi 14 janvier à 19h, il y aura une conférence du directeur général du CICR, Yves Dacor, où tout le monde est bienvenu. Donc, j'appelle la pélisserie. Et puis aussi, et toujours à la pélisserie, samedi 25 janvier à 19h, un récital de Mathias Perry, qui sera accompagné au piano et au violoncelle. Alors, où se trouvent les objets trouvés? Ils se trouvent juste dans le foyer. Voilà, avant que tout ça disparaisse. Donc, ceux qui ont des éléments à reprendre, reprenez-les. Et puis, une dernière annonce. Peut-être tout le monde ne le sait pas. Claude Becher s'est fait hospitaliser vendredi 3 janvier. C'était donc prévu, puisqu'il a été découvert un cancer de la prostate relativement tôt. Donc, il est reconnaissant, nous sommes tous reconnaissants, puisque l'opération a pu être faite très rapidement. Et donc, ça s'est passé vendredi, ils ont pu enlever la prostate, et semblerait-il que tout va bien, en tout cas pour le médecin, il est content de l'opération, et Claude a l'air de bien aller, selon Elisabeth. Il vous remercie de ne pas faire de visite à l'hôpital, s'il vous plaît. Donc, il faudra attendre qu'il soit rentré à la maison. Voilà. Merci. Encore une.
Bonjour, je me permets juste de faire une petite annonce pour le groupe de jeunes. Donc, on est rentré du camp de ski hier. Donc, voilà, tout s'est très bien passé. Merci beaucoup pour vos prières et votre soutien, de nous avoir aussi donné à manger. On a eu du beau temps, on a eu vraiment des belles soirées. Donc notre orateur, c'était Stéphane Lutti, qui est pasteur à l'église de la Colline. Et voilà, donc on est fatigué, mais on est content. Et aussi par rapport, c'est la dernière fois que je vous embête avec ça, mais on avait fait des calendriers de soutien pour notre voyage qu'on va faire en Roumanie cet été. Il y avait encore une ou deux personnes qui m'avaient commander des calendriers, donc vous pouvez venir me voir après le culte. Et puis, il nous en reste encore 5 ou 6, donc si ça vous intéresse, ils sont au prix de 15 francs, et puis volontiers, nous en prenez un, ou deux, ou trois. Merci.
Et puis, dernière chose, donc, tout à l'heure, il y a le repas communautaire où tout le monde est bienvenu.
Elisabeth, tu emporteras nos salutations amicales à Claude. Je pense que tes visites à toi sont autorisées. Donc, dans ce cadre-là, tu le salues chaleureusement de notre part, s'il te plaît. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Sous forme de prière ce matin. Seigneur, dans ta grâce, accorde-nous un cœur qui se souvient des choses qui se sont produites. Un cœur attentif à ce que nous avons appris. Un cœur accueillant pour ce qui fait mal. Un cœur reconnaissant pour tes bénédictions. Un cœur courageux pour ce qui est nécessaire. Un cœur ouvert à tout ce qui peut arriver. Un cœur confiant pour aller de l'avant avec toi. Un cœur aimant pour toi et pour toute ta création. Un cœur ardent pour la réconciliation de toute chose, toute situation. Et un cœur disposé à dire oui à ce que tu voudras. Allez dans la paix, que le Seigneur vous garde.